voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Isabelle Chenu.
Huria, c'est le mot arabe pour désigner la liberté, mais c'est aussi le prénom d'une héroïne d'aujourd'hui. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Huria est une danseuse classique douée, vivant en Algérie. Une mauvaise rencontre, un soir, un voleur qui lui dérobe son sac et la fait tomber et son destin bascule. Le choc est d'autant plus terrible qu'il la laisse mutique et blessée. Comment trouvera-t-elle la force de se remettre debout et de danser à nouveau ? C'est ce que raconte le film Huria en salle en France et au Maghreb mercredi prochain, en Afrique subsaharienne le 17 mars. Bonjour Mounia Medour.
Bonjour.
Huria est votre deuxième long métrage, 4 ans après Papicha. Et vous y filmez de nouveau Lina Koudri. Bonjour.
Bonjour.
Huria, c'est vous, un personnage dont la résilience force le respect. À l'affiche également de notre cinéma ce samedi, une autre histoire de résilience et de combat de femmes, c'est Nayola. Un film d'animation sur 3 générations de femmes angolaises. Un reportage au Pérou où un film en langue quechua connaît un joli succès en salle. Et bien sûr, les dernières nouvelles du journal du cinéma.
Karima, habsi les sfenjou selecto. Tachli kershuk et serre les fesses.
Oui, 5000. Un peu Poutine, ok?
Premier combat, Poutine versus Shakira.
Perdez les drames.
Sergio, t'as perdu.
Un extrait de la bande-annonce de Huria, votre deuxième long métrage, Mounia Medour. Huria, on l'a un peu dit, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années, capable de danser le lac des cygnes ou de s'éclater sur Beyoncé. Elle veut offrir une voiture à sa mère, jouée par Rachida Brakni, en misant sur des combats de béliers. Et puis un soir, ça se passe mal. Le propriétaire d'un animal veut récupérer l'argent et la graisse. Cela se passe en Algérie de nos jours, alors que Papicha, votre premier long métrage, se déroulait au début des années 90. Vous aviez envie, Mounia Medour, de raconter le combat des femmes algériennes d'aujourd'hui ?
Complètement. Tout à fait. C'est-à-dire que la naissance de ce projet vraiment est dans la continuité de Papicha. C'est-à-dire que à la suite du tournage de Papicha, nous avions quitté ce pays en nous disant il y a une telle énergie, il y a une telle envie, il y a énormément de jeunesse, une force de vie, et on avait besoin de raconter finalement le combat des femmes aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était presque une nécessité, une continuité, dans la mesure où on peut imaginer qu'Huria est la petite sœur de Papicha, montrer cette énergie. Aussi parce qu'il y a une image, moi, qui m'a vraiment beaucoup marquée, c'est cette image de danseuse sur pointe dans les rues d'Alger, enveloppée d'un drapeau algérien. C'est vraiment parti aussi de là. Il y a une envie.
Ça, c'était une image que vous aviez vue quoi, pendant le Irak, c'est ça ?
C'est ça, oui, c'était une image qui a pas mal circulé, qui était absolument sublime. Et c'est vrai que tout ça a nourri le fait de raconter l'histoire d'Huria.
Lina Koudri, vous retrouvez Mounia Medour, qui vous aviez confié déjà le rôle principal de Papicha. C'était une évidence de continuer à travailler avec Mounia ?
Oui, c'était une évidence. Je ne me suis pas posé la question. Mais c'est vrai qu'en sortant de Papicha, on commençait déjà à parler de Huria en tant qu'amie, sans se dire qu'on allait travailler ensemble. Mais on parlait de son projet déjà juste au moment de la sortie de Papicha. Donc c'était déjà quelque chose qu'on envisageait. Et évidemment, je ne me suis pas posé la question.
Alors, Lina Koudri, Papicha, vous avez valu le César du meilleur espoir. Aujourd'hui, Huria, vous la définiriez comment ? Quelle est cette jeune femme ?
Elle a une forme de finesse, moi, qui m'éblouit presque, parce que c'est d'une grande intelligence. Elle est, à la différence de Nejma dans Papicha, qui est beaucoup plus fonceuse. Elle est dans sa résilience, elle arrive à s'élever. elle arrive à grandir de ça, de ce qui lui arrive. Donc oui, ouais, j'aime bien sa douceur, sa finesse, j'ai envie de dire.
Elle est femme de ménage le jour et la nuit, on la voit dans un milieu d'hommes parier sur des combats de béliers. Elle est assez double, en fait.
Oui, oui, elle est assez double, mais c'est comme ça que moi, je vois les femmes en Algérie. C'est un peu des caméléons. Elles s'adaptent un peu à l'environnement dans lequel elles sont parce que c'est une société complexe et que voilà... Pour avoir sa place dans la société, il faut tout autant être discrète que présente. Et c'est une ambivalence, un équilibre assez particulier à trouver quand on ne vient pas de là-bas. Et je trouve que les personnages que Mounia propose sont des caractères de vraies Algériennes.
Vous avez dû juste vous mettre à la danse classique, spécifiquement pour ce rôle, oui. Lina Koudry.
Oui.
Ça a dû demander une préparation du coup un peu particulière, enfin peut-être plus longue, non?
Oui, plus longue. J'ai eu 8 mois de prépa. On a commencé fin décembre et on a tourné en octobre. Et pendant tous ces mois-là, de manière plus intense ou pas, mais pendant 8 mois, on a répété beaucoup avec la chorégraphe Ajiba Fahmi. Elle et moi, beaucoup toute seule, et puis avec le regard de Mounia, toutes les semaines, presque parfois tous les jours, des compositeurs de musique, du chef opérateur. Voilà, on faisait énormément d'échanges chaque semaine pour voir comment on avançait, dans quel sens on allait. Et nous, voilà, on était au centre de danse du Marais tous les jours.
Ah oui, Mounia, vous n'avez pas choisi forcément la facilité. Hein.
Non, non, non. Et puis, non seulement on n'a pas choisi la facilité, mais en plus, on a décidé de passer de la danse classique à la danse contemporaine, en passant par la langue des signes. Tout ça sans parole, puisque nous, on est vraiment une société, je veux dire, la société algérienne, on est une société très bavarde. Et c'est vrai que le plus gros challenge, c'était effectivement de faire passer des émotions sans parole, par les visages, par les gestes, par les intentions. Et donc ça a été vraiment assez, assez laborieux à mettre en place.
C'est comme si dans le film, Ouria, vous aviez voulu donner une énorme place en fait au corps, plus qu'à la parole, justement. C'est le corps qui parle.
C'est un film en mouvement. Ce que j'avais envie de montrer, c'est tous ces corps absolument fabuleux qui vont être corsetés, mais qui vont se libérer et qui vont donner une éclosion absolument incroyable. Et ce travail-là, c'est vrai que ça a été assez, assez stimulant avec les comédiennes et avec Lina. Et en tout cas, toute la préparation qu'a faite Lina était assez extraordinaire.
Dans Ouria, on danse beaucoup et pas que du classique. On entend aussi beaucoup de musique, comme ce titre « Je m'en fous » de Mok Saïd.
كنتي في بالي خمم غير فيك جيتي بالي وخسرتي بالعاني شفتي شندير انا ماليش كنتي في بالي خمم غير فيك جيتي بالي وخسرتي بالعاني شفتي شندير ضحكت معاك رجعتي لي ديك البسمه وانا وياك كنت معاك قلتي لي لا ضحكت معاك رجعتي لي ديك البسمه وانا وياك قلت لي وقلتي لي لا ضحكت معاك
On entend aussi dans Ouria des tubes hein, des années 70-80 comme Felicita, Gloria, je pense aussi à Single Ladies de Beyoncé. Comment vous avez choisi les musiques, Mounia Medour?
J'ai porté vraiment un soin très particulier à la bande son et au choix des musiques dans ce film, ainsi que dans Papicha aussi. Hein. Et je crois que ce que je voulais montrer, c'était que la jeunesse algérienne n'est pas une jeunesse déracinée, c'est une jeunesse complètement universelle, qui écoute exactement vraiment les mêmes morceaux que n'importe quelle autre jeunesse, en passant par Brooklyn, Alger ou Paris. Et c'est vrai que le choix, par exemple, de Beyoncé, c'est aussi dans toute la symbolique et l'émancipation que ça amène. Gloria, Felicita, c'est se rappelle un peu nostalgique aussi. Moi, je pense que ça fait appel à une mémoire collective qui est assez intéressante. Et en passant, bien évidemment, par des morceaux algérois, typiquement algérois, et des sonorités aussi tribales, africaines, sur la chorégraphie de fin notamment. Donc oui, il y a une mixité comme ça, une diversité qui représente vraiment aussi la jeunesse algérienne.
Alors, vous parliez du travail avec la chorégraphe, Hajiba Fahmy. Pourquoi vous l'avez choisie, elle ? Évidemment, en plus, c'est une femme pour ce film de femmes, enfin, représentant les femmes algériennes.
Oui, alors c'est vrai que Hajiba, c'est une amie que je connais depuis quelques années. On avait en fait démarré ensemble sur une séance photo, parce que je l'avais prise en photo et j'aimais beaucoup déjà le mouvement, c'est-à-dire la photographier en pleine chorégraphie. Donc il y avait quelque chose qui était très très intéressant et très vite, je l'ai présentée à Lina et la connexion s'est extrêmement bien faite. Hajiba est quelqu'un de très pointilleux, de très précis. C'est l'une des danseuse de Beyoncé, donc elle est aussi caméléon, hein. Elle peut passer, elle est d'origine maghrébine, marocaine, donc en fait il y a cette multiculturalité qui était très intéressante pour nous. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté organique des mouvements et des chorégraphies. Et donc très vite, on a travaillé sur une sorte de mood board, sur en fait chaque mouvement, en montrant vraiment l'exactitude de ce qu'on voulait, c'est-à-dire le signe, la main, le visage, vraiment quelque chose de très graphique. Donc il y a eu vraiment un très très long travail de préparation avec elle et avec Lina aussi.
Oui, parce que filmer la danse, c'est presque, c'est un genre en soi. Vous devez aussi inventer votre langage cinématographique.
Oui, ça a été assez laborieux, le fait de faire un choix, parce qu'on ne voulait pas d'une captation simple d'un vidéoclip avec le chef opérateur. On voulait vraiment avoir une identité très particulière. Et c'est vrai que le choix de la langue des signes, une chorégraphie signée, il y a quelque chose d'assez brut, d'assez frontal, d'assez puissant, qui représente vraiment ces femmes-là. Ça rappelle aussi l'Afrique, l'Algérie. C'était un vrai parti pris de fragmenter cette chorégraphie, un peu comme un peuple, en choisissant une partie des corps, des visages en mouvement et pas forcément toute la chorégraphie.
Dans Ouria, il y a de la danse, de la musique, du mouvement, le corps en mouvement. Néanmoins, le personnage d'Ouria, Lina Koudri, il est dans un horizon qui est quand même assez bouché. Elle a une meilleure amie qui va tenter de partir sur un bateau. Donc on sent qu'il y a cette expressivité pour un peu contrecarrer justement l'absence de perspective.
Oui, complètement. C'est des horizons, bouchés. Et il se trouve que dans un pays comme l'Algérie, des jeunes femmes comme elle, et leurs rêves surtout, leurs rêves ne sont pas des priorités. Devenir danseuse, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre et on n'a pas ni les infrastructures, ni les possibilités, ni les écoles. Et donc effectivement, quand on a ce genre de rêve, oui, l'horizon est un peu bouché. On a envie de soit de partir, soit de se battre, soit de chercher à faire autrement. Mais c'est comme ça pour beaucoup de jeunes sur place.
On disait, ou vous le disiez, Lina Koudri, vous avez fait une énorme préparation avant le tournage pour justement pratiquer la danse. Il y a un deuxième défi, c'est que votre personnage est assez vite mutique en fait dans le film suite à cette agression et va s'exprimer donc non seulement par le corps, bon ça c'est une danseuse, mais aussi avec la langue des signes. Ça aussi c'est un langage que vous avez appris pour le film.
J'ai eu des cours de langue des signes. C'est une langue, si je me permets, pardon.
Bien sûr.
Mais parce qu'on m'a reprise aussi plusieurs fois et c'est très important. C'est vraiment une langue, donc c'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain. J'ai pas appris la langue des signes, ce serait vous mentir. J'ai appris mes répliques en langue des signes, comme j'aurais pu apprendre mes répliques en espagnol ou en chinois. C'est vraiment une langue avec une autre forme de grammaire. C'est très, très intéressant. C'est une langue qui est beaucoup plus instinctive que la manière dont on formule nos phrases, nous. C'était très intéressant.
Mounia Medour, c'est une communauté de femmes aussi que vous nous montrez dans Ouria. Qui sont-elles, ces femmes ?
Alors, ce sont effectivement des femmes d'horizons différents qui vont se retrouver autour du personnage d'Ouria. Et ce sont des femmes qui vont retrouver un sens à leur vie, et dans un projet collectif, un projet culturel, un projet de libération, un projet finalement de danse et de chorégraphie signée. Et ce qui les lie, c'est finalement tout le côté instinctif. Effectivement, elles ne se parlent pas réellement, elles se comprennent. Et ce noyau de femmes qui se reposent les unes sur les autres, cette solidarité, cette sororité, c'était exactement ce que je voulais montrer, parce que c'est ce qui se passe réellement en Algérie lorsqu'on est face à des difficultés, cette entraide, cette solidarité, c'est finalement c'est ce qui va les aider à sortir, on va dire, de cette situation qui est assez, assez compliquée.
Ouria les rencontre à la piscine, enfin, lors d'une séance de rééducation. Enfin, elle fait sa rééducation, elle les rencontre et puis petit à petit, elle va faire connaissance là, autour de la table, lors d'un déjeuner, donc, de ces femmes qui sont aussi d'autres accidentées de la vie.
Je suis la Darbin Katanato dans un attentat terroriste. C'est une bus piégée.
Qu'est-ce qui se passe autour de la table? Donc, la Mounia Medour, il y a une sorte d'animatrice qui coach ce groupe de femmes.
C'est effectivement une scène un peu pivot, puisque Ouria retrouve ce groupe de femmes. Ouria est au sein de ce groupe de femmes qu'elle rencontre dans ce centre de rééducation. Donc, en fait, c'est le moment où elle est acceptée. Elle est acceptée dans cet univers de femmes. Elle est acceptée dans ce groupe. Et donc, elle fait, à partir de ce moment-là, partie de cette communauté de femmes qui sont effectivement des femmes blessées de la vie. On peut dire que c'est un groupe complètement universel parce que ce sont des femmes qui ont été oubliées, des femmes qui ont été rejetées, des femmes à qui on n'a pas laissé le droit à la parole. Ce sont des femmes qui ont été effectivement écartées de la société. Donc c'est des accidentées de la vie. Et c'est un centre d'entraide, de féminin. Et on a Ouria qui arrive au cœur de ce groupe et qui devient un tout petit peu la porte-voix de ce groupe à travers un projet collectif et commun.
Il y en a une, c'est Halima, on a entendu le prénom dans l'extrait, c'est l'actrice Nadia Cassi. Oui. Elle aussi, elle ne parle pas. Elle a perdu ses enfants sont morts lors d'un attentat islamiste. Il y a deux sœurs jumelles. Enfin, chacune a une histoire traumatique.
Oui, ce sont des femmes qui ont eu des expériences très douloureuses à cette période-là. On a effectivement le personnage de Nadia Cassi qui a perdu ses enfants et qui n'arrive pas à accepter ce deuil. Et c'est toute la reconstruction de ce personnage au fur et à mesure à travers le projet de danse contemporaine qu'elles vont créer tout ensemble. Donc oui, c'est comment finalement dans une société qui n'a pas forcément de soutien, trouver une solution pour cicatriser et pour avancer dans la vie et accepter ce deuil et avancer.
Elles ont tous les âges et elles viennent de tous les milieux sociaux aussi. Il faut dire ça, elles sont très différentes en fait. C'est un groupe assez hétéroclite. Elles sont liées par les fantômes des années de plomb, par les conséquences de cette période en fait.
Oui, tout à fait. Ce sont des femmes qui ont eu un rapport assez dur avec cette période et qui ont encore ces traumatismes enfouis en elles. Alors, on peut imaginer que certaines ont été répudiées car elles présentent des handicaps. On parle de stérilité, on parle d'orphelinat, on parle de femmes tout simplement qui ont été traumatisées de ce vécu, de ce quotidien à cette époque-là, oui.
Lina Koudri, votre personnage, Ouria, essaie de demander justice puisqu'elle a été attaquée et qu'elle a été blessée. Et là, on voit très rapidement qu'elle est en butte à l'hostilité.
Mais c'est vrai que l'administration et ce genre de structure dans un pays qui cherche, qui n'a pas vraiment les codes, en fait. Mais de toute façon, en France aussi, hein, moi, quand je vais à la mairie faire mon passeport, ça peut mettre 40 jours. Donc, il y a vraiment quelque chose d'une vraie critique de cette administration-là qui est comme trop ancienne, trop vieille, comment on se renouvelle. Et c'est vrai qu'on arrive à des jugements de valeur, c'est un manque de communication, finalement, moi, que je pointe vraiment à ces moments-là du film. Ces rendez-vous au commissariat qui se passent mal ou alors qui avancent pas. Ou alors, voilà, je vois vraiment un manque de communication entre deux mondes, comme si les gens ne se regardaient plus vraiment, comme si les gens étaient dépassés par tout ce qui leur arrivait, que ce soit du côté des policiers et de la policière en question, jouée par Salima Abada, ou Rachida Brakni et moi qui sommes de l'autre côté. Enfin, vraiment, c'est ce genre de situation qu'on peut rencontrer souvent où si on se regardait un peu plus, ça pourrait peut-être mieux se passer.
Il y a une forme d'injustice aussi parce que leur parole en fait n'est pas entendue, n'est pas prise en compte. Et aussi parce que l'agresseur, il vient du monde d'avant, c'est un islamiste repenti. Ça aussi, ça pèse dans la balance.
Je dirais que ce n'est pas une injustice, c'est une indifférence avant tout. C'est-à-dire que la population et la jeunesse et la génération actuelle est tellement préoccupée par d'autres problématiques qui sont beaucoup plus urgentes et essentielles. Avoir un emploi, avoir un logement, avoir des soins médicaux, avoir la possibilité d'avoir une voiture, puisque la circulation est très complexe, avoir la possibilité de manger, avoir la possibilité d'être pris en charge pour des raisons notamment traumatiques ou autres, ce sont les urgences, vraiment c'est vital, c'est assez vital. Alors que là, une plainte d'une danseuse agressée de nuit dans une rue obscure, pour eux c'est quelque chose d'anecdotique, même si ça peut paraître absolument désastreux.
Alors, juste, je voulais revenir sur les conditions de l'agression, parce que ça, c'est assez intriguant, en tout cas, quand on ne connaît pas ce que vous filmez. Donc, c'est des scènes nocturnes. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'il y a une opposition entre les scènes de danse qui sont très solaires, même quand Ouria est blessée, se balade avec, a du mal à voilà, se reconstruire, c'est quand même très, très solaire. Par opposition aux scènes de nuit, ces combats de bélier. Un milieu très masculin, presque enfin, viriliste, on va dire, avec ses béliers au nom improbable. Il y a Trump, il y a Obama, il y a Shakira aussi, Poutine. C'est quoi ces combats de béliers? C'est vraiment ça, c'est une de vos inventions, Mounia Medour? Ça existe vraiment?
Non, ça existe réellement. Hein. C'est vraiment quelque chose qui existe en Algérie, au Maroc, en Tunisie. C'est l'équivalent des combats des coqs ou les combats des chiens qui existent un peu partout dans le monde. Et là, c'est une spécificité. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'opposer l'univers effectivement lumineux, solaire, vertical, des danseuses, cette élégance avec le côté obscur. Finalement de la nuit, le côté viril en effet, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était de montrer à quel point c'était un personnage qui se faufilait, c'est un personnage qui s'adaptait, c'est un personnage qui vivotait, et c'est un personnage, comme le disait Lina tout à l'heure, un peu caméléon, puisque en Algérie, lorsqu'on est une femme, on essaye de trouver des solutions aussi pour trouver les moyens de survivre financièrement, et en l'occurrence, on peut imaginer que c'est un personnage qui travaille le jour, qui a une passion qui est la danse et qui parie pour avoir effectivement des sommes beaucoup plus importantes, mais pour une raison assez noble, c'est-à-dire acheter cette voiture qui est hors de prix à une maman qui s'est sacrifiée toute sa vie et qui a besoin d'avancer dans la vie. Donc c'est vraiment un personnage qui est très, très malin.
Très malin et courageux.
Évidemment, elle est courageuse. Pour toutes les fois où j'ai été en Algérie en vacances, toutes mes tantes, mes grand-mères, toutes les femmes qu'il y a autour de moi sont courageuses. Donc c'est comme si on partait du postulat qu'elles l'étaient toutes. Donc forcément, oui, elle l'est. C'est la base. Il faut être courageuse pour pouvoir évoluer dans un environnement comme celui-là, dans un espace public comme cela. On a beaucoup de clichés et beaucoup de préjugés sur la femme algérienne, maghrébine. Et depuis la nuit des temps, les grands-mères sont ce qu'on montre dans Papicha déjà, avec le haïk, c'est cet habit qui traduit complètement le courage des femmes. Et donc oui, pour répondre à votre question, oui, elle l'est.
Ouria, donc on l'a dit, elle se fait agresser par Ali, un jeune homme. Agression qui l'a conduit à l'hôpital puis en rééducation. Elle va porter plainte à la police, c'est compliqué. Et elle va tenter aussi de mobiliser une avocate.
Déménager. Sabrina, tu connais la situation. Quand il s'agit des terroristes graciés, tout devient compliqué. Son agresseur est sûrement bien introduit, y compris chez les flics. Ouria, je sais que fuir n'est pas une solution. Mais se repentir est dangereux. Il aurait dû être jugé et condamné. On en avait marre du sang, des massacres. On voulait pardonner, mais personne n'a pardonné. Je ne pourrais pas t'aider, Holia. J'ai vu des choses horribles. Je ne veux pas replonger.
Voilà, l'agresseur Mounia Medour, donc, est un ancien islamiste gracié après la décennie noire. Vous montrez les blessures, parce qu'il y a la mère aussi du personnage, elle aussi, elle a traumatisé par ces années. Il y a d'autres femmes dans le film qui sont endeuillées. Et l'avocate est une avocate qui aussi, dans un premier temps, en tout cas, elle aussi, elle a été traumatisée par ces moments-là.
Oui, alors elle est pas seule, c'est-à-dire qu'elle elle symbolise un peu toutes ces femmes qui se sont battues aussi à cette période-là, parce qu'on avait énormément d'avocates, énormément de personnes qui ont résisté à cette période-là. Quand je dis résister, c'est tout simplement aller au travail, aller à l'université, plaider, soigner. Donc, ce sont vraiment des femmes qui se sont investies à cette période-là, qui était une période très, très dure. Et bien évidemment, cette avocate avait défendu des gens qui avaient besoin d'aide, mais qui a finalement, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, décidé d'abandonner, puisque c'est tout à fait humain lorsqu'on est vraiment à une période... Humainement, je pense qu'on ne peut pas tenir le coup lorsqu'on est face à autant de dureté. Donc c'est vrai que le personnage de l'avocate, c'est un personnage qui se retrouve face à Ouria et qui décide à un moment donné aussi de regarder ses fantômes du passé en face et de prendre la décision de les affronter.
Peut-être qu'il y a une envie aussi de tourner la page, d'essayer d'aller de l'avant, donc... choisir, pas d'oublier, mais de laisser derrière ce qui a été fait, sans finalement le régler.
Alors ça, c'est exactement ce que je voulais montrer à travers la jeune génération, à travers donc une génération de danseuses, mais aussi de femmes qui ont envie de tourner la page, mais qui sont sur un territoire fragilisé. Donc malheureusement, c'est vrai que ces traumas n'ont toujours pas été réglés. Mmh. Ce sont des traumas qui sont présents. Et donc on construit là-dessus. Donc il y a une sorte de fragilité, il y a une sorte de reconstruction qui prend beaucoup plus de temps. Mais ce qui est important, c'est de montrer à quel point ce sont des gens qui ont une sorte de puissance. Mais de toute façon, les femmes, de façon générale, je pense, dans le monde, ont des parcours absolument incroyables et on a cette force de survie, finalement, qui fait qu'on se relève toujours.
Lina Koudry, on parlait d'Ouria, de son personnage, de cette jeune femme qui se bat. Mais c'est un duo aussi avec sa mère, personnage interprété par Rachida Brakni. C'est ce duo de femmes. Elles sont un peu quand même seules au monde, toutes les deux soudées, mais seules au monde. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de soutien d'homme sur tous ces personnages de femmes.
Alors, je suis pas d'accord. Au contraire, alors pour être honnête avec vous, on nous avait un peu fait la remarque sur Papicha, on avait trouvé avec Mounia qu'on avait peut-être été maladroite, et sur Ouria, vraiment. Après, on raconte des histoires d'un point de vue féminin. Donc déjà, dans un cours de danse classique, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Quand on parle des repentis, c'est forcément des hommes. Et voilà, l'histoire fait qu'on est du point de vue d'Ouria, de sa rééducation qui se passe dans un centre exclusivement réservé aux femmes. Donc, et ça, c'est pour des raisons d'intimité. Voilà, on n'a pas guidé le scénario et le propos du film par ce chemin-là. C'est des strates de scénario qui nous sont imposées pour faire avancer notre histoire, et on va pas composer pour faire plaisir à tout le monde. Et on a eu assez de films avec beaucoup trop d'hommes et là on a le droit aussi de faire des films avec beaucoup de femmes. Moi j'ai vécu longtemps avec ma maman toute seule parce que mon père était à l'étranger, on était vraiment que toutes les deux à la maison, et ça a vraiment pas changé grand-chose. J'ai évolué, j'ai grandi normalement. Là, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on remarque parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir au cinéma.
Alors c'était pas un reproche.
Non, vous inquiétez pas, je réponds de manière générale à toutes les personnes qui me poseront cette question, parce que je l'ai beaucoup eu hier en journée presse, et voilà, je tiens à dire que les vrais personnages masculins de ce film sont les personnages qui vont sauver Ouria, qui vont la défendre, qui vont la protéger. Donc je sais pas trop comment on répondra autrement.
Il y a deux jeunes garçons, justement, deux voisins qui sont très drôles.
Ils sont trois, ouais.
Vous avez raison, mais j'en ai reconnu un, puisque c'est le documentariste algérien Hassen Ferrani, qu'on avait reçu d'ailleurs à plusieurs reprises dans cette émission. Oui, c'est un de vos amis.
Oui.
Ils symbolisent aussi ces jeunes gens très drôles. Par exemple, à un moment, ils expliquent comment tenir le mur. Enfin, bon, c'est assez, ils sont très à la fois, enfin, c'est très amicaux. Ils flirtent, mais pas lourdement.
Non, c'est des amis du quartier. C'est avec Mounia, le travail qu'on essaye de faire, c'est d'être au plus proche du réel et de la réalité. Et donc, on passe énormément de temps à se poser des questions, à chercher, etc. Ce qu'on voit dans les rues de la Casbah ou dans les films de Mounia, c'est des réalités. Il y a énormément d'humour. Les filles et les garçons communiquent comme ça dans la rue. Moi, je sais qu'on a déjà eu une scène comme ça dans Papicha où je descends les escaliers de la Casbah. C'est... Faut qu'on se libère de tout ce qu'on pense et que, enfin, c'est la vraie vie, quoi.
C'est ce que, effectivement, on essaye de faire, c'est de se rapprocher au maximum de cette réalité qu'on connaît bien. On se permet aussi de le faire parce qu'on la maîtrise. Et c'est vrai que le rôle de ces trois jeunes garçons, il y a une sorte de bienveillance. Et c'est ça qu'il faut aussi véhiculer parce que, effectivement, il y a de l'agressivité, mais on a aussi ces moments d'humour. Ce sont des garçons qui sont tout à fait charmants, je dirais, et qui ont une certaine culture, un humour, une gestion linguistique absolument hilarante. Et ça, c'est assez commun aussi dans les rues d'Alger. Hein. C'est quelque chose qui est assez, assez connu.
Ouais, c'est très connu. Moi, j'ai plein de souvenirs de moi marchant dans les rues d'Alger et parlant avec des jeunes hommes que je connaissais pas parce qu'ils m'avaient fait une blague, parce qu'en passant, j'ai entendu un truc drôle. Et vraiment, on est décomplexés face à ça. Et ça fait partie de la culture.
On parle d'Alger. Le film, vous ne l'avez pas tourné à Alger? Vous l'avez tourné.
Une partie,
mais sinon c'était à Marseille, c'est ça. Est-ce que le film va pouvoir sortir en Algérie, sachant que Papicha, qui pourtant avait représenté l'Algérie dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger, n'avait pas pu sortir en Algérie?
Oui. Alors je ne peux pas répondre vraiment à cette question, parce qu'on a un distributeur effectivement algérien qui souhaite le sortir, mais on a une sortie là le 15 mars, et la sortie algérienne est prévue un peu plus tard. Donc nous, on aimerait tellement, bien évidemment, que la jeune génération et que les gens se réapproprient ce film qui leur appartient aussi. Donc on espère bien évidemment que le film sortira.
Merci Mounia Medour, merci Lina Koudri.
Merci à vous.
Je rappelle le titre du film en salle mercredi prochain en France et au Maghreb, donc aussi au Maroc, en Tunisie. Vendredi prochain à Dakar ou Abidjan, c'est Ouria. On parle de guerre civile en Angola, on parle du Pérou et du journal du cinéma. Juste après cette pause musicale, le choix de notre réalisateur Nicolas Benita, c'est une reprise d'As It Was d'Harry Styles par Prep. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say. Everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. And I'm the one who will stay. Oh, oh, oh. In this world, it's just us. êtes bien à l'écoute de Tous les cinémas du monde sur RFI. C'est le moment du journal du cinéma avec vous Isabelle. Retour sur le palmarès du FESPACO, c'était la semaine dernière à Ouagadougou.
L'étalon d'or de Yenenga et ses 20 millions de francs CFA de récompense a été décerné au réalisateur tunisien Youssef Chebbi pour son film Ashkal, un polar qui se déroule dans les jardins de Carthage à Tunis où deux policiers mènent une enquête sur de mystérieuses immolations. Ashkal, une valeur sûre du cinéma. Le film avait déjà été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes l'an dernier et avait remporté l'Antigone d'or, la plus haute récompense du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier. La Tunisie également à l'honneur avec les prix d'interprétation masculine et féminine qui sont revenus à l'ensemble des acteurs et actrices du film Sous les figues de la réalisatrice Erige Seiri. À noter que ce sont essentiellement des acteurs non professionnels. Le meilleur scénario a été décerné au film Le Bleu du Caftan de la Marocaine Mariam Touzani. Mariam Touzani que nous aurons le plaisir de recevoir la semaine prochaine dans tous les cinémas du monde.
Et au FESPACO, Youssef Chebbi devance donc deux femmes. La Burkinabé Apolline Traoré pour Sira qui reçoit l'étalon d'argent. Et la Kenyane Angela Wamai pour Chimoni, récompensée par l'étalon de bronze. Une cérémonie chasse l'autre. 95e édition des Oscars, ce sera Isabelle, dimanche soir à Los Angeles.
Oui, c'est la grand-messe annuelle du cinéma hollywoodien, une cérémonie diffusée dans plus de 200 pays à travers le monde. Trois favoris parmi les 10 films en compétition, une comédie potache, Everything Everywhere All at Once, en tête des nominations, suivie de À l'Ouest, Rien de Nouveau, un film allemand sur l'horreur de la Première Guerre mondiale, et Les Banshees d'Inisherin, une histoire d'amitié contrariée sur une île isolée au large des côtes irlandaises. Côté meilleure actrice, Kate Blanchett tient la corde pour son rôle de chef d'orchestre dominatrice dans Tar, en face de Michelle Yeoh qui incarne dans des univers parallèles les multiples avatars d'une mère de famille au bord de la crise de nerfs dans Everything, Everywhere, All at Once.
Et c'est plus ouvert du côté des hommes.
Il y a 5 concurrents dans la catégorie meilleur acteur. Austin Butler en Elvis Presley a déjà remporté de nombreux prix, mais Brendan Fraser revient fort dans la course à la statuette, même si le film The Whale, la baleine, n'a pas rencontré son public. Sa performance d'acteur bardé de prothèses pour incarner un homme obèse de 250 kilos a marqué les esprits.
Et puis, parmi les nommés dans la catégorie meilleure musique de film, il y a un talentueux vétéran.
Et oui, John Williams, maître en musique de film universel comme La Guerre des Étoiles, Les Dents de la Mer, Harry Potter ou Superman. Il concourt à 91 ans pour un 6e Oscar pour le film de Steven Spielberg, The Fabelmans. Il est déjà l'artiste vivant le plus nommé, 53 nominations tout de même.
Et on termine avec une étude américaine, Isabelle, à la veille de la cérémonie des Oscars. Une étude révèle sans surprise en fait que les 2/3 des personnages de cinéma des 100 plus grands succès de l'année 2022 étaient des hommes, généralement dans la trentaine.
Oui, l'étude a été réalisée par l'université de San Diego. Et à noter que les films d'horreur sont ceux qui donnent la part belle aux héroïnes. 43% d'entre elles sont la star d'un film d'horreur contre seulement 4% des hommes.
La formidable résilience des femmes, il en était question en début de cette émission avec le film Ouria. Et quelques jours après le 8 mars, qui marque comme chaque année la journée des droits des femmes, signe que ce sujet est éminemment universel, c'est également le thème d'un film d'animation sorti mercredi, Nayola de José Miguel Ribeiro. Angola, 2011. La jeune Yara, 17 ans, est une rappeuse qui dénonce le pouvoir en place avec son flow. Elle vit dans un quartier pauvre, élevée par sa grand-mère. Sa mère, Nayola, a disparu pendant la guerre civile en recherchant son compagnon. Le film mêle différentes époques puisque l'on suit Yara, mais aussi la quête de sa mère Nayola dans l'Angola déchirée, bombardée de 1995. Le portugais José Miguel Ribeiro a composé chaque plan comme un tableau et s'est immergé dans la culture et la musique angolaise pour réaliser ce film d'une grande beauté, inspiré d'une pièce de théâtre.
Oui, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre d'Eduardo Aguarruza et Mie Couto. Un, c'est un écrivain angolain et l'autre, c'est un écrivain mozambicain. Et ils ont l'habitude de travailler à quatre mains dans quelques projets.
Mais du coup, comment vous êtes dit que vous alliez adapter une pièce de théâtre en film d'animation ? C'est pas forcément évident.
Ouais. En fait, je suis allé en Angola, à Luanda, pour faire un workshop. Et j'ai un ami qui habite là depuis 30 ans. Il m'a présenté cette pièce avant qu'elle ait été publiée. Et je l'ai vue, j'étais pris par l'intensité de la relation entre ces trois femmes. Et surtout par une façon assez profonde, une dimension humaine. Je suis aussi très sensible à des questions de guerre parce que j'ai un père qui a combattu dans la guerre et je l'ai vu comment il a souffert et continue à souffrir de la guerre.
Il a été donc soldat portugais pendant la guerre d'indépendance de l'Angola, c'est ça ?
Pas en Angola, il était à Guinée-Bissau. Mais en Portugal, presque tout le monde a des familières qui sont allées dans la guerre coloniale parce qu'on est à peu près 10 millions et c'était presque 900 000 soldats qui sont partis. Donc en Portugal, si tu parles avec quelqu'un dans la rue, quelqu'un va te dire ah, j'ai un oncle, j'ai mon père, j'ai un grand-père, c'est quelque chose de très proche. Ouais.
Donc l'Angola, c'est une ancienne colonie portugaise. Ouais. Les trois femmes du film, il y a la grand-mère, il y a la mère, c'est Nayola, il y a sa fille et la petite fille, donc c'est Yara. On navigue entre 1995 et 2011. 1995, c'est la guerre civile.
Ouais.
2011, c'est une période aussi particulière.
En fait, c'est après la guerre. En fait, la guerre, la guerre civile termine en 2002. Et après ça, il y a un temps de paix un peu instable, où il y a beaucoup d'armes qui sont partout, les gens, il y a toute la violence de la guerre qui commence à être très présente dans la société. Et Eduardo Aguarruza, il a écrit un conte qui était la base de la pièce de théâtre les années après cette guerre. Ce qu'on a changé, par exemple, c'est que Yara, dans la pièce de théâtre, était une fille un peu rebelle, mais qui avait des néfaites, mais était un peu perdue, si tu veux. Et nous, influencés par un événement qui est passé en 2011-2012, c'est un groupe d'activistes qui étaient prisonniers en Angola et condamnés parce qu'ils étaient condamnés pour conspirer contre le gouvernement. Et en fait, ce n'était pas ça la question. Donc, ils étaient condamnés et un des activistes était un rappeur. Il s'appelle Luati Beirão. Il a fait un grève à faim et à la fin de quelques mois, la pression internationale, ils étaient libérés. Et donc je me suis dit, voilà, le mouvement rap, c'est quand même quelque chose de très important au niveau social à ce moment en Angola. Donc j'ai fait des recherches et j'ai découvert Medusa. C'est une rappeuse qui habite en Angola et que j'ai invitée pour faire le rôle de Yara. Medusa sabia que vocês não contaram, né? Esqueçam tu pego o bagulho aqui é pra mulher. Viram-me parada, mas foi por força maior. Agora vim com tudo presta a derrubar todos os gladiadores. Quantas damas? Não sei se sinto pé no rio. Mas cara a cara mato todas num só desafio. Aqui não há rap, aqui não há divas. Guerreira desde o berço, valoriza minha saliva. Medusa double le personnage de Yara. Et donc Yara, c'est la petite fille, c'est une rappeuse, effectivement, dans la partie de 2011 du film, Nayola. Pour elle, le rap, c'est presque son arme, en fait. Oui, voilà. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans le rappeur, c'est qu'il continue à lutter. Donc c'est une autre forme de lutte, mais c'est une lutte assez importante pour transformer la société, pour faire la pression, pour que la justice et la distribution de la richesse du pays puissent être beaucoup plus équilibrées. Et donc, elle habite dans un petit moussek, on appelle ça, mais de quartier pauvre. Et donc, elle voit toutes les injustices à côté d'elle. C'est quelqu'un qui a cette force. Elle est vraiment une fille très, très forte, avec une très forte énergie. Mais en même temps, elle est très fragile, parce qu'elle n'a pas que nous, c'est sa mère et son père, et ça le manque. Et donc, c'est ça que j'aime aussi dans le film, c'est que tous les personnages féminines, elles sont en même temps forts et courageux, mais fragiles, parce que, voilà, elles ont toujours soit un secret, soit quelque chose qui les manque, qui les fait devenir beaucoup plus humaines.
José Miguel Ribeiro, donc Nayola est un film d'animation. Vous utilisez différents types d'animation, vous avez mêlé différentes méthodes, non?
Oui, parce qu'en fait, la richesse de l'animation, c'est aussi les différentes techniques. On peut faire des films avec du sable, de la peinture, des photos, du dessin. Et dans ce cas-là, il avait deux temporalités. Il avait le présent, qui c'est à peu près la pièce de théâtre originale. Il y avait le passé, c'est le voyage de Nayola. Et en fait, avec ces deux temporalités, je voulais aussi essayer de choisir des techniques qui puissent renforcer ces réalités. Déjà, donner des repères au spectateur pour savoir où il est, mais aussi pour renforcer le présent peut-être un peu plus réaliste et le passé un peu plus expressionniste, si tu veux, parce que je crois que la guerre, elle, c'est comme un accélérateur de particules. Elle, tout devient beaucoup plus intense. La souffrance, mais aussi la joyeuse, donc la joie. Donc, c'est pour ça que j'utilise aussi des couleurs très fortes dans le décor, une texture très marquée, parce que je crois que cette intensité, c'est quelque chose qui nous amène pour des états d'émotions beaucoup plus limites, si tu veux.
Termine cette émission au Pérou, où un film en langue quechua bat des records en salle. Plus de 80 000 spectateurs ont déjà vu Vilac Pirca, El Cine de mi Pueblo, Vilac Pirca, le cinéma de mon village. Une audience jamais vue au Pérou pour un film intégralement en langue quechua réalisé par le péruvien César Galindo. C'est un reportage au Pérou de notre correspondante Juliette Chénion.
Ciné, película y matortelli et tourné.
Le film Vilac Pirca nous emmène au cœur des Andes. Là-bas, le personnage de Sistou, un écolier, découvre la magie du cinéma grâce à un projectionniste ambulant. Nous sommes dans les années 80. Sistou marche des heures pour assister aux séances dans le village. Les cascades de Bruce Lee, les mimiques de Charlie Chaplin. De retour chez lui, Sistou rejoue ses classiques du cinéma à sa communauté. Cette comédie familiale est un succès en salle. Dans ce cinéma liménien, la séance finit sur des applaudissements. Et Victor, un spectateur, a même traversé Lima pour voir ce film.
Ça m'a beaucoup ému. J'ai même dû sécher quelques larmes. J'ai tout aimé dans ce film, qui en vient même à inventer des histoires. C'est très beau. Cela montre aussi comment on vit dans ces communautés. Il n'y a pas grand-chose là-bas. Mais il y a beaucoup d'espoir et de rêve. Moi qui ai grandi à la campagne, ça me rappelle beaucoup de choses.
Derrière les scènes tendres et les rires, le film raconte les inégalités entre la ville et le monde rural. Les membres de la communauté de Sistou sont exclus du cinéma ambulant car ils ne parlent pas espagnol. Comme une revanche, le réalisateur César Galindo a choisi de tourner son film Vilac Pirca en quechua, ancienne langue de l'Empire Inca, parlée par 14% de Péruviens.
J'ai toujours revendiqué cette langue, que le reste du monde se rende compte qu'on ne parle pas qu'espagnol au Pérou. J'ai effacé dans ce film tout ce qui vient de la colonisation espagnole, la religion et la langue. Parce que nous devons montrer aussi que nous avons notre propre culture, notre passé.
Primé l'an dernier au Festival de Lima, le réalisateur ne s'attendait pas à un tel succès auprès du grand public. D'après lui, la clé est d'avoir éviter les clichés habituels sur la vie andine.
Parfois, on montre une image erronée du Pérou, comme s'il n'y avait que de la misère, de la terreur dans notre pays. Mais je pense que le Pérou profond est bien plus que ça.
Le film est en salle depuis 14 semaines et en ligne sur les réseaux sociaux. De nombreux spectateurs réclament à leur cinéma de le garder encore à l'affiche.
C'est ainsi que s'achèvent Tous les cinémas du monde, une émission présentée par Isabelle Chenu
et Sophie Torlotin, à la réalisation Nicolas Benita.
Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie d'un autre tandem féminin, la cinéaste marocaine Mariam Touzani et l'actrice Loubna Azabal. D'ici là, bonne semaine à tous.